วลาจูบหายปลายเชียงเรียงตามเชียนีปดอนเพียตูงัดลา
Canal Sud 92, bonjour tout le monde. Eh bien oui, vous ne vous êtes pas trompé. Ce n'est pas contre-histoire aujourd'hui, même si c'est toujours Tati Danielle au micro. Parce que hier, elle n'était pas en état, alors elle a différé. Mais je vais quand même vous faire l'agenda que j'avais prévu de vous faire hier et que je n'ai pas pu vous faire absolument contre ma volonté. Voilà. Alors, donc... Samedi 22 septembre, nous sommes. Et vous avez dû entendre parler de la marche pour la paix qu'il y a. Vite, vite, ça y est, vous avez vos baskets. Vite, vite, vite. À la place Arnaud Bernard, tout à l'heure, à 11h. Donc, il vous reste 55 minutes tout juste pour vous propulser à Arnaud Bernard pour la marche pour la paix. Stop à la guerre, stop aux violences. Voilà. Et puis après, vous revenez vers Canal Sud, vers les allées Jules Guesde, à midi, à la Vegan Place. Et là, vous allez apprendre des tas de choses sur la façon de se nourrir biologiquement et surtout en santé. Donc, allée Jules Guesde, à midi. Et puis, à 14h30, le Café Bricole, qui a recommencé son œuvre salutaire, est installé à Ramonville, au port sud, juste là où il y a la fête Alternativa. Voilà. Alors, donc, à la salle de quartier Émile Zola, au port sud de Ramonville, vous avez le Café Bricole à 14h30. Et puis, toujours dans le cadre du festival Alternativa, à la librairie Flouri, à 16h, vous avez « Quelle réponse aux bouleversements écologiques ?» Oui. Et puis, à la librairie, à une librairie, mais un peu plus loin, à Avenue Jean-Rieu, à la librairie Bifur, vous aurez la visite de l'écrivain Karim Amelal, pour son œuvre en général, voilà. Et puis, ça y est, on arrive à demain, on arrive au dimanche 23 septembre. Alors là, j'espère que vous serez en forme parce qu'il y a un week-end extraordinaire à Ramonville, toujours. Ça commence à la salle des fêtes à 10h, à la salle des fêtes du village des alternatives de Ramonville. Et vous avez aussi à 10 h une journée interprojet rue Suzanne de Noël, 3 rue Docteur Suzanne de Noël, sur l'habitat participatif dont je vous ai déjà parler beaucoup, ces immeubles que l'on construit en général ou que l'on équipe de façon à ce que les appartements puissent communiquer entre appartements de personnes dépendantes et appartements de gens dynamiques et généreux qui acceptent de répondre aux appels de détresse des personnes, en particulier du troisième âge. Voilà. Et puis, eh ben, on en arrive, on en revient au Festival Alternatiba. Alors, festival scientifique, développement durable, transition écologique, tout ça à la salle des fêtes du Ramon Village, village des alternatives, au port technique de Ramonville, à 15 h. Donc, quelques jours avant l'arrivée du Tour Alternatiba qui parcourt, vous vous en souvenez, 5 600 km à vélo pour promouvoir les alternatives écologiques et sociales. Rendez-vous donc au Ramon Village des Alternatives avec un menu appétissant. Atelier de fabrication, transmission de savoir-faire, tables rondes et conférences gesticulées, concerts, etc., etc. Et tout ça animé avec Enercop. Enercop, vous savez, la coopérative énergétique qui vous branche sur le courant fourni exclusivement de façon écologique, courant éolien, courant, oui, éolien, oui. Et aussi solaire, bien entendu. Vous avez remarqué que les panneaux solaires se multiplient à Toulouse et ailleurs, dans les campagnes en particulier, où les toits sont moins ombrés par les immeubles. Eh bien, vous avez des tas de panneaux solaires qui poussent. Alors, la région en transition, c'est pas du rêve, c'est de la réalité. Et vous pourrez obtenir des précisions au stand Enercop de Ramon Village, où vous aurez tous les renseignements souhaités. Et je me suis aperçue récemment que c'était pas seulement pour chauffer l'eau de votre douche ou de votre baignoire. Le solaire, c'est aussi pour chauffer la maison. Chauffer la maison. Ma voisine s'est équipée avec un ensemble magnifique de panneaux photovoltaïques sur son toit et elle chauffe la maison. Depuis l'année dernière, elle chauffe la maison comme ça. Je vous donnerai des détails financiers, arithmétiques sur la question. J'attends les factures énergétiques de ma voisine pour vous présenter la chose avec toutes les précisions nécessaires de façon à ce que vous puissiez réfléchir aux investissements possibles. Personnellement, je me prépare à des investissements et à des emprunts, bien entendu, mais ça vaut la peine hein, parce que elle avait calculé que ça devait lui faire à peu près deux crédits, ça devait lui faire à peu près 120 euros par mois. Ben oui, mais moi, c'est ma facture de chauffage. Alors pourquoi pas, hein? On en reparlera, on en reparlera. Et surtout, à l'Alter Village, au port de Ramonville, il y a à 15 h, 15 h 30, à la salle des fêtes donc du port technique de Ramonville, près du Bikini, il y a ce dimanche, donc demain vers 15 h, 15 h 30, vous avez un débat, une conférence débat organisée par la Ligue des droits humains qui va porter sur le thème démocratie et environnement, et en particulier sur l'étude du dossier Sivens Rémi Fraisse. Ce dossier, le procès correspondant et ses enjeux. Donc, à 15h ou 15h30, vous voyez, aux alentours de 15h, 15h30, vous aurez cette conférence débat « Démocratie et environnement ». Place du Canal, au port technique près du Bikini, donc tout ça organisé par la Ligue des droits humains, au village des alternatives à Ramon Village. Voilà. On y sera en force, en nombre plutôt. Et on fera des rencontres épatantes et on fera le point de cette terrible affaire, voir les suites qui vont être données avec ce procès. À 19h, toujours à la réunion Alternativa, festival scientifique, énergie et ressources, usages, présents et à venir. Et puis, figurez-vous, le mercredi 26 septembre. Le mercredi 26 septembre, ça sera la journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires, avec, comme je vous l'avais dit déjà la semaine dernière, avec le général Francis Laine, officier de l'armée de l'air à la retraite, et Patrice Bouveret, que l'on connaît, de l'Observatoire de l'armement. Ils animeront une conférence intitulée « Les impostures de la dissuasion ». Je répète, « Les impostures de la dissuasion » par le général Francis Laine et Patrice Bouveret. Cette journée pour l'élimination totale des armes nucléaires doit apporter une réflexion sur les raisons qui opposent la majorité des États qui ont signé le traité d'interdiction des armes nucléaires, étape vers l'élimination de ces armes, et la minorité d'États, dont la France, la Russie, les États-Unis, la Corée du Nord, qui rejettent ce traité, en prétextant qu'il déstabiliserait la sécurité internationale. Alors là, si on ne me fait pas un dessin, je ne comprendrai pas. Le débat porte sur ces questions. Quelle sécurité le credo de la dissuasion garantit-il? Quel danger fait-il peser sur la paix et la sécurité mondiale? Quels coûts moraux, financiers, écologiques s'en suivent pour les Français? Alors, pour consulter ou télécharger le flyer de l'événement ou obtenir le flashcode, vous pouvez faire sortirdunucléaire.org/img/pdf/flyer. Tiré du 6, les impostures de la dissuasion.pdf. L'événement est co-organisé par les Amis du monde diplomatique, par l'Université populaire de Toulouse, par le Mouvement de la paix 31 et le réseau Sortir du nucléaire, bien sûr. Et vous pouvez consulter tous les événements de Sortir du nucléaire sur leur site http://sortirdunucléaire.org/agenda. Voilà. Et puis, jeudi 27 octobre, à 20h30 à la Bourse du Travail. Grand débat avec François Cusset, l'historien des idées, professeur à Paris-Ouest Nanterre. Grand débat sur le déchaînement du monde. Logique nouvelle de la violence. François Cusset est l'auteur de nombreux ouvrages remarqués, dont à la découverte French Theory et La décennie. Alors, donc à 20h30, ce jeudi, jeudi prochain, 27 septembre. Et puis, entre-temps, vous aurez, ce jeudi 27 septembre à 17h, vous aurez certainement accueilli les cyclistes de Tour Alternativa. Les cyclistes du Tour Alternativa qui feront, vous vous en souvenez, la boucle de 5600 km. On va les accueillir, allez Frédéric Mistral, et puis on les reconduit jusqu'au Capitole. Et ensuite, grand débat à la salle aux Aides. Voilà. Et puis, un petit peu de musique. Otis Redding, peut-être.
I've got dreams, dreams to remember. I've got dreams, dreams to remember. Honey, I saw you there last night. Another man's arms holding you tight. Nobody knows what I feel inside. All I know, I walked away and cried. I've got dreams to remember. Listen to me.
I've got dreams,
rough dreams. Just a friend, but I saw him kiss you again and again. These eyes of mine, they don't fool me. Why did he hold you so tenderly? I've got dreams to remember. Listen, honey.
I've got dreams,
rough dreams. Said he was just a friend, but I saw you kiss him again and again. These eyes of mine, they don't fool me. Why did he hold you so tenderly? I've got dreams to remember. Listen to me, mama.
Watching the ships roll in, then I watch them roll away again. Yeah. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home. Nothing to be. like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on a dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on a dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do. So I guess I'll remain the same. Sitting here resting my bones in this long.
Et puis, maintenant je vais, comme quelquefois déjà, je vais vous reprendre quelques articles de Médiacité Toulouse que je vous ai déjà cités et dont je vous ai dit tout le bien que je pense. Un article sur les délocalisations d'Airbus. Bulgarie, République tchèque, Tunisie, Maroc, Mexique. Près des deux tiers des salariés de la TECOER, société dont le siège social est à Toulouse comme chacun sait, comptant parmi les sous-traitants d'Airbus, travaillent à l'étranger. En 2017, l'équipementier aéronautique employait 4451 salariés dans 10 pays, 2884 à l'étranger et 1567 en France. Par rapport à 2015, l'entreprise compte 421 salariés de plus à l'étranger et 127 de moins dans l'Hexagone. Depuis 2010, on observe une accélération des délocalisations. Dans le même temps, un plan social enclenché en 2016 a détruit 200 emplois qui ne sont pas entièrement compensés par l'ouverture de l'usine de Montredon, déplore Florent Coste, délégué CGT chez la TEC. Les carnets de commandes sont toujours remplis, alors l'emploi du secteur continue de progresser dans la région, soit plus de 2%. 6 de création d'emplois en 2016 par rapport à 2015. Mais ce sont les pays du Maghreb et d'Europe de l'Est qui profitent le plus de cette dynamique, remarque un expert d'un cabinet de conseil de la Ville Rose. L'étude annuelle de l'INSEE sur l'aéronautique et spatiale, publiée en mars, met l'accent sur le fait que la filière représente un emploi industriel sur 5, et on le sait bien, dans le Grand Sud-Ouest. Ce qui éclipserait presque le chiffre le plus pertinent de l'enquête, à savoir que 39% de l'activité des sous-traitants de l'aéronautique d'Occitanie et de la Nouvelle-Aquitaine est effectuée à l'étranger. Eh oui. Car chez Airbus, il y a le cauchemar, en plus, de la sous-traitance en cascade. À la recherche d'une baisse constante de ses coûts, Airbus exerce une pression croissante sur ses sous-traitants, oui, qui répercute ses contraintes sur d'autres entreprises. C'est le système en cascade mis en place par l'avionneur toulousain au détriment des salariés au bout de la chaîne. Chez Airbus, donc, les salariés Heureux détenteur du pass bleu, qui se gare sur le parking du géant de l'aéronautique et paye deux fois moins cher la cantine. Participation de l'entreprise oblige. Ensuite, il y a le badge rouge, destiné aux sous-traitants principaux, dits de rang 1, qui donne accès à des zones sécurisées. Enfin, il y a ceux dont les insignes ne comportent même pas de photos. Ce sont les sans-visages, comme s'est surnommée Sarah, employée chez le sous-traitant d'un sous-traitant, dernier maillon de la chaîne mise en place par l'avionneur toulousain pour réduire les coûts. Médiacité explore la sous-traitance en cascade d'Airbus, premier volet d'une série d'enquêtes sur l'industriel emblématique de la région toulousaine. La sous-traitance en cascade et ses conséquences sur les salaires. Eh oui, ma fifille, elle en sait quelque chose. Si vous aviez vu sa tête quand elle est revenue de son entretien d'embauche chez un de ses sous-traitants, avec son bac plus 3, elle en pleurait, la pauvre gosse. Prenez les employés de Capgemini, par exemple. Ils s'occupent, entre autres, d'améliorer les systèmes informatiques d'Airbus. Les sous-traitants de rang 1 y rêvent d'être embauchés par l'avionneur toulousain pour toucher un salaire supérieur d'environ 30%, selon nos regroupements de témoignages d'experts du recrutement et des salariés. Mais aussi pour bénéficier du généreux comité d'entreprise dont le budget représente non pas 1% de la masse salariale comme à peu près partout, mais 5%. Travailler pour la plus grosse entreprise de la région, c'est une fierté. On voit des parents venir chercher leurs enfants à l'école maternelle avec leur badge à la ceinture. Ils le portent comme un totem, remarque Aliou Diéro, délégué CGT chez Capgemini. La direction d'Airbus en joue, même dans un clip. Oui, oui. https://www.youtube.com/watch Point d'interrogation. Et puis tiens, un petit peu de nostalgie, si ça vous dit.
Qu'on me laisse mes souvenirs, qu'on me laisse mes amours mortes. Il est temps de fermer la porte, il se fait temps d'aller dormir. Je n'étais pas toujours bien mise. J'avais les cheveux dans les yeux, mais c'est ainsi qu'il m'avait prise. Je crois bien qu'il m'aimait un peu. Il pleut sur le jardin, sur le rivage. Et si j'ai de l'eau dans les yeux, c'est qu'il me pleut sur le visage. Le vent du nord qui s'amoncelle s'amuse seul dans mes cheveux. Je n'étais pas toujours bien belle, mais je crois qu'il m'aimait un peu. Ma robe a toujours ses reprises, et j'ai toujours les cheveux fous. Mais c'est ainsi qu'il m'avait prise, je crois que je l'aimais beaucoup. Il pleut sur le jardin, sur le rivage, et si j'ai de l'eau dans les yeux, qu'il me pleut sur le visage. Si j'ai fondu tant de chandelles depuis le temps qu'on ne s'est vu, et si je lui reste fidèle, à quoi me sert tant de vertu? Qu'on me laisse mes amours mortes, qu'on me laisse mes souvenirs, mais avant de fermer la porte, qu'on me laisse le temps d'en rire. Il pleut sur le jardin, sur le rivage, et si j'ai de l'eau dans
visage. Et oui, c'était Anne van der Love, que j'aimais beaucoup et que j'aime toujours. Et je vais vous faire partager cette passion en fin d'émission, si vous voulez bien. En attendant, on revient aux articles de Médiacité qui se lamentent, comme nous tous, de l'augmentation du prix du billet des transports en commun. Le prix des billets augmente régulièrement. Et pourtant, nos tickets ne financent qu'une faible part des coûts des réseaux de métro, tramway et bus. Médiacité fait les comptes et ouvre le débat de la gratuité des transports en commun. Article de Mathieu Péris. À Dunkerque, 200 000 habitants, sera expérimentée ce mois de septembre la plus grande opération en France à instaurer la gratuité du réseau de transport en commun. La mesure est déjà expérimentée les week-ends depuis 2015. Cette ville devancera ainsi la communauté d'agglomération de Niort, 120 000 habitants. Je vous précise, je ne sais pas si je ne l'ai pas sauté. Ça se passe à Dunkerque, ça, pour le moment, hein, 200 000 habitants. Cette ville devancera ainsi la communauté d'agglomération de Niort, 120 000 habitants, dont le réseau de bus est passé en accès libre en septembre 2017. Qui sera la prochaine? Aujourd'hui, 15 agglomérations françaises ont franchi le pas de la gratuité totale. Et 9 autres ont choisi une gratuité partielle. Villes de taille modeste, Aubagne, Compiègne, Châteauroux, ou villes plus importantes comme Dunkerque. Elles ont sauté le pas ces dernières années. Les partisans de la gratuité se laissent désormais aller à des rêves de grandeur, avec un exemple en tête, Tallinn, la capitale de l'Estonie, 450 000 habitants, qui a opté pour la gratuité depuis 2013. Et le gouvernement fédéral allemand réfléchit à l'instauration, d'ici à la fin de l'année, de la gratuité des transports en commun dans 5 villes, dont Bonn et Essen, soit 300 000 et 600 000 habitants, pour lutter contre la pollution de l'air. De quoi inspirer les grandes métropoles hexagonales, n'est-ce pas? Oui, on peut rêver. Et si vous voulez plus de précisions sur cette question, vous pouvez faire http://afpfr/statut-s/963-500-775-02-775-70-56. On retrouve Anne van der Love, si vous voulez bien.